Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Aaron Jean-Marie Lustiger, né juif le 17 septembre 1926, a été converti et baptisé en 1940 à Orléans et deviendra prêtre en 1954, aumônier de la Sorbonne jusqu'en 1969, en 69 curé de Sainte-Jeanne-de-Chantal, en 1979 évêque d'Orléans, en 1981 archevêque de Paris pendant 24 ans, créé cardinal par Jean-Paul II en 1983 et le 15 juin 1995, il sera élu donc à l'Académie française et mourra en 2007. Henri Tinck, bonjour.
Bonjour.
Vous venez donc de publier la première biographie du cardinal Lustiger, mort donc le 5 août 2007. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup enquêté, vous avez interrogé plus de 80 personnes. Et il faut dire que vous avez connu à titre personnel Jean-Marie Lustiger pour avoir été responsable au journal La Croix de la rubrique religieuse. Et surtout, à partir de 1985, vous l'avez été au Monde. Et pendant tout ce temps-là, vous avez reçu pour 12 entretiens, si je me souviens bien, Jean-Marie Lustiger, que vous connaissez. Alors, première chose, parce que vous avez eu cette connaissance personnelle de Jean-Marie Lustiger, que peut-on dire de son caractère, de sa manière d'être, du rapport personnel que vous pouviez avoir avec lui?
Oui, un homme très exigeant et très marqué par une vision un peu tragique du monde et de ce que j'ai l'habitude d'appeler la condition de l'homme sans Dieu, quoi. Et ça, ça marque tous nos rapports qui sont à la fois difficiles, exigeants, ardus et en même temps empreint d'une sorte de chaleur humaine, quoi, qui est très grande chez lui, quoi. Il est capable de faire preuve d'autoritarisme, mais en même temps de demander pardon pour un propos déplacé, quoi. Et je l'ai rencontré lors des interviews que j'ai faites et que vous avez chiffrées à 12, mais c'est sans compter tous les entretiens informels, hein, et puis tous les voyages que j'ai pu faire avec lui à Rome, au Liban, en Russie, à Sarajevo. J'étais témoin, enfin, de son action comme pasteur de Paris aussi. Et c'est un homme exigeant, je répète, et difficile, mais capable, encore une fois, de rapports chaleureux avec les individus et avec les journalistes en particulier. C'est une chance pour moi de rencontrer cet homme qui m'a élevé, je n'ai pas peur de ce mot, intellectuellement, spirituellement. Et puis lui, il avait peut-être une chance aussi à me fréquenter parce que je lui offrais une sorte de porte d'entrée dans un journal comme Le Monde, qui ne lui était pas étranger parce que Le Monde touche des milieux non catholiques et des milieux intellectuels. Et il était très heureux à chaque fois de s'adresser à la grande opinion à travers un journal comme Le Monde.
Il est vrai, puis après on va rentrer un peu dans ce nombre d'éléments de sa biographie, qu'il était, et vous le dites dans ce livre, qu'il était fasciné, hypnotisé, intéressé, intrigué par les médias, et qu'il n'y a peut-être pas eu d'exemple au XXe siècle de personnage de l'Église de France qui ait été à ce point présent dans les médias et qui s'est à ce point manifesté et qui à ce point est intervenu dans les médias.
Il s'intéressait à tous les sujets de l'homme moderne, quoi. La foi, la culture, les arts, la science, la médecine, la politique, les médias, jusqu'au fonctionnement des médias, puisqu'il a créé lui-même des médias à Paris, Radio Notre-Dame, KTO. Et il était fasciné par le fonctionnement médiatique, par la puissance de la parole qui pouvait émerger des médias. Et il s'intéressait donc à tous les sujets et il intervenait sur tout. Alors il le faisait non pas à la manière d'un homme d'église un petit peu père fouettard, quoi, hein, mais il le faisait presque souvent par goût de la controverse intellectuelle et du débat. Et j'étais assez fasciné par ça, par sa capacité à entrer en relation avec la grande opinion et à intervenir à chaud sur les événements... Et à prendre position au nom de l'Église sur les grands sujets qui intéressent l'homme aujourd'hui, alors qu'on note dans le milieu épiscopal, dans le milieu d'Église, parfois une certaine frilosité dans l'intervention qu'il n'avait pas. Et il était apprécié presque plus par les journalistes non catholiques que par les journalistes catholiques dont il attendait une sorte d'obligation, de pas militante, mais une obéissance, quoi. Alors qu'avec les journalistes non catholiques, il avait une plus grande liberté d'appréciation de ce qu'il produisait.
Oui, parce que je précise pour nos lecteurs, donc je l'ai dit en introduction, que vous avez été à la fois donc à la Croix, et donc dans un journal catholique, et tous ceux qui se souviennent un peu de ces choses-là savent qu'en 1983, vous aviez organisé donc une table ronde pour les 5 ans du pontificat de Jean-Paul II, et que vous avez été sermonné, on peut dire ça comme ça, par Jean-Marie Lustiger, parce que vous émettiez, j'imagine, des critiques ou des observations ou des remarques, et qu'après, au Monde...
Des critiques à travers les personnes que j'avais invitées pour cette table ronde. Voilà. Le simple fait d'émettre des critiques sur l'action de Jean-Paul II à cette époque-là était déjà considéré comme un crime de lèse-majesté, un peu pour les responsables de l'épiscopat français.
Donc après, vous êtes passé au Monde, et c'est là où, effectivement, vous étiez dans un journal qui n'avait pas d'obédience catholique particulière. Et donc là, j'imagine que les rapports se sont...
Détendus, disons-le.
Voilà, et qu'ils n'avaient aucune relation d'autorité avec vous, si ce n'est une autorité morale, intellectuelle, personnelle, qui était autre chose. Alors, je voudrais terminer juste cette introduction juste sur son caractère, parce que vous ne cachez rien. Et c'est là où votre biographie est exhaustive, large, et vous avez, dans les 80 personnes que vous avez interrogées, donc vous avez interrogé tout le monde, donc vous citez, et je cite le début de votre... introduction. Donc, ses colères sont célèbres, ses décisions cassantes. Il a le sens aigu de sa supériorité intellectuelle et d'une mission qui le dévore entièrement. Il se montre brutal, rétif au travail collégial, obsédé par la peur du complot. Il coupe des têtes, boude ostensiblement ses confrères évêques, crée des institutions nouvelles pour faire pièce aux anciennes qu'il méprise. Est-ce que, donc, vous avez sous-titré votre livre « Le cardinal prophète » et non pas le cardinal charitable. Est-ce que ce prophétisme, ce sens du tragique qui était le sien, ce sens de la croix qui était le sien, n'allait pas à l'encontre dans ses rapports personnels avec une certaine charité chrétienne qui suppose d'avoir des rapports humains peut-être matinés
de... Si, il était capable de, disons, de charité pastorale. Il en était capable. D'ailleurs, à chaque fois qu'il célébrait la messe, le dimanche soir... À Notre-Dame, il sortait des rangs à la fin de la messe pour aller saluer la foule des présents à cette messe. Il était capable de cette charité pastorale, mais il avait une autorité naturelle et une espèce de sentiment que son autorité venait presque directement de Dieu, quoi, hein. Alors, c'est peut-être une forme de suprême orgueil ou bien... Est-ce un sens aigu de sa mission? Mais en tout cas, il avait le sentiment de n'avoir de compte à rendre qu'à Dieu, quoi. Il n'avait pas de compte à rendre à ses confrères prêtres ou évêques, à Dieu directement. D'ailleurs, son livre qui s'appelle « Le choix de Dieu », son livre principal, veut bien dire ce qu'il veut dire. Il a fait le choix de Dieu quand il s'est converti à l'âge de 14 ans à Orléans. Il a fait le choix de Dieu, mais Dieu l'a choisi aussi, lui, pour une mission particulière. Lui, juif, membre du peuple élu, il l'a choisi pour une mission particulière dans la société française.
Alors justement, je voudrais insister, parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre livre qui se lit, je le dis pour les auditeurs, qui se lit extrêmement bien, qui ne rentre pas dans toutes les problématiques théologiques qu'il a pu traverser, mais qui est vraiment une biographie et qui les évoque sans trop les développer. Donc il y a deux points sur lesquels je voudrais insister avec vous pendant cet entretien. D'une part, effectivement, sa conversion ou son adhésion, voilà, donc ce passage, quand il était jeune, et donc à Orléans en particulier, là où effectivement il a fait le choix d'être baptisé d'une part, et puis deuxièmement, plus tard, toujours sur cette question de sa judaïté, les différents moments où effectivement il s'est trouvé en opposition, en conflit avec la communauté juive, les représentants juifs qui lui ont nié cette double appartenance qu'il revendiquait comme telle, à la fois juif et catholique. Alors commençons, si vous voulez bien, par effectivement ses origines, par son arrivée. Donc il est juif, vient d'une famille de Pologne. Alors comment est-ce que ça se passe au début dans son éducation personnelle avec ses parents ? Est-ce qu'il est juif pratiquant ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Est-ce qu'il est converti au sens où il y aurait une foi juive qui supposerait qu'il soit passé à une autre foi ? Expliquez-nous ces origines qui sont ô combien essentielles et qui vont marquer tous les rapports qu'il pourra avoir avec les juifs et même avec les catholiques.
Aaron Lustiger, c'est comme ça qu'il s'appelle à la naissance, ne reçoit aucune éducation religieuse, il faut le savoir. Ses parents ne fréquentent pas la synagogue et même les obligations rituelles du judaïsme, à part un petit moment à la fête de Kippour, il n'y a pas du tout de pratique religieuse juive à la maison. Donc, il est élevé à l'école laïque, il est élevé sans éducation religieuse. Ça, c'est un point de départ absolu et massif. Mais c'est une conversion qu'il fait à l'âge de 14 ans. À 14 ans, ses parents, menacés par la guerre, envoient leurs enfants, Aaron Lustiger et sa sœur Arlette, à Orléans, recueilli par une gouvernante catholique au demeurant. Et c'est là que Jean-Marie Lustiger va rencontrer le Christ, va rencontrer l'Église et se convertir à l'âge de 14 ans. Alors c'est une conversion, je dirais, à la fois spontanée et préparée. Spontanée, il y a quelque chose de claudélien dans sa démarche, quoi. Il entre dans la cathédrale d'Orléans le jour du Jeudi Saint. Il est très étonné par les rites qui
sans
se
savoir,
déroule, sans savoir la signification
ni le jour, ni
de cette fête. Il y retourne le lendemain, vendredi saint. L'église est dépouillée, comme le veut le rite catholique, et il ne comprend toujours pas pourquoi. Et il rentre chez lui et il pose des questions à sa gouvernante. Et donc, il y a une sorte, dans ses visites à la cathédrale d'Orléans, une sorte d'éblouissement quand même, quelque chose qu'il ressent comme étant de l'ordre de la présence divine. Donc il y a quelque chose de spontané dans sa conversion, mais quelque chose de préparé aussi, parce que cet enfant qui n'a pas reçu d'éducation religieuse, il se met à lire la Bible dès l'âge de 10 ans. Il y a une Bible qui traîne à la maison.
Une Bible protestante,
et il l'ouvre en cachette de ses parents, d'ailleurs, il faut le dire. Et il est tout de suite frappé par la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour lui, c'est la même aventure, la même histoire du salut des hommes, quoi. Et pour lui, il apparaît très vite, et c'est le cœur de sa conversion, que Jésus-Christ est vraiment le Messie annoncé par les prophètes venant accomplir la promesse du peuple élu d'Israël, quoi.
Donc, c'est le cœur
de sa conversion à 14 ans.
Alors là, sa conversion, donc, je le cite, hein, là, donc, j'ai eu l'intuition que au moment de son baptême, là, j'ai eu l'intuition que ce que je pensais de la condition juive trouvait dans la figure du Messie son sens et un certain aboutissement. Alors, ce qui rend la chose un peu compliquée, et qui va rendre la chose compliquée pour tout le monde, c'est que nous sommes en 1940, qu'il n'a que 14 ans, et l'élément nouveau que vous apportez dans votre biographie, que personne ne connaissait, c'est que lui, donc, a été baptisé, mais que ses parents aussi ont été, je ne vais pas dire baptisés, mais disons inscrits sur les registres du baptême de la cathédrale d'Orléans.
Oui, c'est exact. C'est la révélation de cette biographie que j'ai retrouvée dans les archives de l'évêché d'Orléans, l'attestation donc du baptême de ses parents, alors qu'on savait, dans les confidences qu'avait pu faire Jean-Marie Lustiger sur cette période de sa vie, on savait qu'il y a eu un conflit familial très lourd lorsque Aaron Lustiger a décidé de se convertir et a reçu une éducation religieuse et s'est fait baptiser par l'évêque d'Orléans, même cheminement suivi par la sœur, et il y a eu un conflit familial
Arlette.
Très lourd. Et on a même des preuves que les parents Lustiger, après la guerre, ont essayé de le faire revenir sur sa conversion et d'annuler son baptême. Il y a eu des visites au grand rabbin pour essayer de convaincre Jean-Marie Lustiger, Jacob Clapin, lui-même, futur grand rabbin de France. Et vraiment, Jean-Marie Lustiger a défendu bec et ongles sa position. Son baptême est un baptême d'adhésion à Jésus-Christ, d'adhésion au Messie. Ça n'a rien à voir, à l'entendre, avec les circonstances de la guerre et avec l'environnement chrétien qu'il avait à Orléans, sa gouvernante étant une pratiquante catholique.
Alors sa gouvernante, donc, je crois qu'il faut signaler son nom, qui s'appelle Suzanne Combes. Elle a 30 ans quand lui en a 14. Et effectivement, elle l'a recueilli donc, à Orléans et l'a élevé chez lui pendant que effectivement, ses parents étaient restés à Paris. Et donc, il l'a retrouvé, si j'ai bien lu votre biographie, il l'a retrouvé quand il est devenu lui-même archevêque d'Orléans. Donc voilà, c'est cette dame qui est un personnage peut-être un peu invisible, mais ô combien essentiel dans ce cheminement spirituel qui a été le sien.
Essentiel. Elle n'a pas fait de prosélytisme à son égard, et c'est pas à cause d'elle, comme certains ont pu le prétendre, qu'il s'est fait baptiser. Mais elle a répondu à ses questions, à ses attentes. Et quand il était archevêque de Paris, il continuait à l'interroger et lui passer des coups de fil pour vérifier telle ou telle citation, parce qu'elle était professeure de lettres, elle a été directrice d'un établissement catholique d'Orléans. Donc un personnage qui a joué un grand rôle dans la vie personnelle de Jean-Marie Lustiger. Alors, le baptême de ses parents, à la différence de celui des enfants, est un baptême de complaisance. On en est sûr. C'est un certificat de baptême qui a été délivré par l'évêque d'Orléans aux parents pour se protéger des lois anti-juives de Vichy. Mais ce certificat de baptême a été délivré 2 mois après le baptême de Jean-Marie et de Arlette Lustiger, quoi. Hein? Donc, on ne sait pas si ce baptême a été effectivement célébré comme étant un baptême, mais en tout cas, c'est un baptême très probablement de complaisance. Et comme il y en avait beaucoup à l'époque, parce que les circonstances de la guerre s'y prêtaient. Et ce qu'il faut dire avec regret, c'est que ce certificat de baptême n'a pas servi beaucoup aux parents Lustiger.
Voilà, alors justement, donc là, c'est pour ça que nous rentrons, et grâce à vous, dans le détail, mais c'est des détails qui ont absolument leur importance. Donc, sa mère va être arrêtée et mourra dans les camps. Comment les choses se sont-elles passées ?
Alors, les parents prennent conscience de la menace. Le père décide d'aller en zone sud pour essayer de trouver un refuge, une position de repli pour amener sa famille de Paris où elle habitait. Et la maman de Jean-Marie Lustiger reste à Paris pour tenir le magasin de bonneterie qui était l'activité qui nourrissait la famille, quoi. Donc la séparation des parents a des effets assez graves parce qu'elle est seule à Paris, la maman, et elle est arrêtée, on a su après la guerre, sur la dénonciation d'un voisin.
Qui se suicidera lui-même.
Oui, exactement. Arrêtée pour non-port de l'étoile jaune parce que c'était une femme de caractère qui ne voulait pas porter l'étoile jaune et qui a été arrêtée pour ce motif-là. Elle a été transférée à Drancy.
Elle est restée cinq mois
à Drancy. Et là, elle a pu envoyer des petits messages à sa famille, qui était immensément inquiète, on le comprend. Et elle a été déportée en février 1943 à Auschwitz, et on n'a plus de traces d'elle. Elle a été exterminée, oui. Et le père est resté dans la zone sud, dans la région Le père Charles, il est resté dans la région de Decazeville, où il avait une activité ouvrière. Et son fils, après le bac, a été le rejoindre et ils ont tous les deux mené une vie de clandestin, quoi. Donc c'est une vie assez extraordinaire, quoi. Et toutes ces épreuves de l'enfance ont beaucoup marqué. Vous parliez tout à l'heure de la place de la croix dans sa vie. Eh bien, les épreuves de l'enfance, la guerre, l'occupation, la déportation de sa mère, la clandestinité, ce sont des épreuves familiales qui ont nourri chez lui une sorte de théologie de la croix. Non pas qu'il ne croyait pas en la résurrection, mais la théologie du calvaire l'a emporté souvent dans sa façon d'approcher les choses, et on le verra dans l'avenir de sa carrière.
Je précise juste que donc le père, donc Charles Lustiger, donc qui était né en 1899, donc en Pologne, est arrivé donc en France en 1918, voilà, et donc Jean-Marie Lustiger est né en France, et donc Charles Lustiger a rencontré une cousine éloignée qui portait le même nom que lui.
Exactement.
Voilà, qui s'appelait Lustiger aussi et qui était née en 1903 et qui effectivement mourra. Donc Jean-Marie Lustiger, après la Deuxième Guerre mondiale, donc est chrétien. Sa mère donc est morte dans les camps et son père, lui, fait tout, et vous l'avez indiqué, fait tout pour que ce baptême de Jean-Marie Lustiger, qui a 18 ans, soit annulé et fait intervenir donc Jacob Kaplan, qui sera, comme vous l'avez dit, effectivement grand rabbin de France, pour considérer que les circonstances d'une part, la contrainte du moment d'autre part, ont été à l'origine de ce baptême. Comment vous voyez ce Jean-Marie Lustiger de 18 ans à la fin de la guerre, qui va commencer à rentrer donc au séminaire, qui est à la fois crucifié par son histoire personnelle et la mort de sa mère, et qui est en proie, je ne sais pas, le rejet de son père, qui ne comprend pas sa conversion, d'une part, et deuxièmement, qui fait tout pour que Jean-Marie Lustiger revienne sur sa décision.
Il va de soi que Jean-Marie Lustiger vit cela comme une épreuve, mais il est très convaincu enfin, de la dimension unique de cette Bible, de ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, de cette continuité entre les deux volets de la Bible, que pour lui, l'adhésion à Jésus-Christ est plus forte que la blessure familiale qui est profonde avec son père. Cette blessure s'aggravera lorsqu'il voudra rentrer dans les ordres, lorsqu'il voudra devenir prêtre. Et on a vu son père aller le chercher dans le premier séminaire où Jean-Marie Lustiger avait tenté de faire son entrée. Il était encore mineur, il avait 20 ans, il n'avait pas 21 ans, et son père est allé le rechercher. Et Jean-Marie Lustiger a décidé de tenir bon, il avait la certitude de sa vocation. Et il a ouvert une deuxième porte de séminaire. Il s'est adressé au séminaire des Carmes, à l'Institut catholique de Paris, qui lui a ouvert ses portes. Et là, les liens ont été rompus définitivement avec son père, définitivement, entendons-nous, pour 2 ans. Pendant 2 ans, ils ne se sont pas vus. Et pendant 2 ans, Jean-Marie Lustiger a vécu sans mère ni père, et vivant chez des amis, allant se changer pour porter sa soutane chez son ami Michel Saudreau, séminariste comme lui, qui deviendra évêque aussi comme lui. Donc il a vécu ça comme une blessure profonde, quoi, ce conflit familial. Et ça fait partie de ces épreuves de l'enfance qui l'auront marqué toute sa vie et qui l'empêchaient, il le dit à un moment, de sourire, quoi, hein. Il ne souriait pas, ou très peu, quoi, hein. Et sa vie était marquée par cette dimension tragique, et l'épreuve, le conflit familial fait partie de cette dimension tragique.
Alors comment les choses se sont, puis on va terminer sur cette première partie sur la relation avec son père. Il y a une photo que l'on comprend mieux au regard de tout ce que vous dites dans votre livre, où effectivement quand Jean-Marie Lustiger deviendra archevêque de Paris en 81, il y a donc une photo où les deux hommes s'embrassent, se retrouvent. Alors comment les choses ont évolué dans l'esprit donc Charles Lustiger, le père, à l'égard de son fils, qui confirme de plus en plus sa vocation de séminariste, puis de prêtre, et qui fera progressivement sa carrière, enfin, entre guillemets.
Disons que le temps a fait son œuvre. Après les 2 années où il lui a coupé les vivres, il s'est rapproché de son fils. Et progressivement, il a cheminé dans une sorte de... Oui, disons-le, sans porter atteinte à sa mémoire, à la mémoire de Charles Lustiger, son père, une sorte de résignation, un petit peu, hein, au choix qu'il avait fait, non seulement de se baptiser, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la conversion pour un juif, c'est toujours une épreuve terrible, quoi, hein. Pendant, il faut se souvenir qu'encore à cette époque-là, lorsque un enfant juif se convertissait, la famille juive portait le deuil de l'enfant converti, quoi, hein. Donc ça a été une épreuve terrible pour le père. Mais encore une fois, le temps a fait son œuvre, la résignation a joué, le baptême a été progressivement accepté, à contre-cœur mais accepté. Et il a suivi son cheminement à la fin de son séminaire. Et le père de Jean-Marie Lustiger a été présent le jour de son ordination, au fond de l'église, derrière un pilier, discrètement, mais il a quand même été présent, ce qui était un premier signe de réconciliation, une réconciliation qui n'a cessé de s'amplifier après. Les rapports sont devenus bons entre le père et le fils, et Charles Lustiger, le père, était présent à l'ordination épiscopal de Jean-Marie Lustiger, d'abord à Orléans et ensuite à Paris, vous le rappeliez, cette embrassade que, dont témoignent les photos. Quoi. Et donc, il avait une forme de réconciliation. De réconciliation, voilà. Et puis, disons-le aussi, et ça c'est très vrai pour toute la communauté juive, une sorte de fierté d'avoir un fils devenu évêque. C'était un destin tout à fait inattendu pour le père. Mais il avait, comme la communauté juive, une sorte de fierté d'avoir un fils devenu archevêque de Paris. Malheureusement, il mourra assez vite, en 1982, donc un an après son ordination épiscopale à Paris.
Henri Tinque, merci. Donc je rappelle pour nos auditeurs votre livre « Henri Tinque, Jean-Marie Lustiger, le cardinal prophète ». Donc nous avons vu dans cette première émission les conditions de la conversion de Jean-Marie Lustiger à Orléans, sa lecture de la Bible à partir de 10 ans, et puis effectivement, comment est-ce qu'il a intégré, au moment de la guerre, comment est-ce qu'il a intégré cette conscience qui était la sienne, de ce destin à la fois juif et catholique qui était le sien. Donc je signale à nos auditeurs que nous aurons avec Henri Tinque une deuxième émission qui portera sur le même sujet, à savoir le destin ou la gémellité chrétienne et juive de Jean-Marie Lustiger. Et donc, nous aborderons un autre moment de votre biographie, à savoir trois moments particuliers. Donc, 1981, l'élection de Jean-Marie Lustiger comme archevêque de Paris. 1995, donc, sa venue en Israël et une réaction forte qu'il va affronter, subir, porter comme une croix là-bas. Et puis, les conditions de sa mort. Et donc, je renvoie nos auditeurs à ce deuxième entretien. Henri Tinque, merci.
Merci.